RCF.
Beaucoup le nomment le mal du siècle, le burn-out au travail. Il pourrait concerner jusqu'à 50 000 personnes par an en France. Syndrome d'épuisement professionnel, fatigue d'être soi, épuisement intérieur. Il n'est pas toujours facile à identifier et concerne également la vie personnelle et familiale. Ce qui se voit en premier dans cette maladie est d'abord physique et émotionnel avant d'être spirituel. Pour autant, faut-il écarter la dimension spirituelle dans la survenue d'un burn-out ? Peut-on puiser des éléments de sens dans la foi chrétienne afin de lutter contre cet épuisement ? Autant de questions que nous posons à notre invité aujourd'hui, le père François Buet, prêtre et médecin à Marseille. Bonjour Père François Buet.
Bonjour Sophie.
Alors vous êtes prêtre du diocèse de Marseille et médecin à la clinique Sainte-Élisabeth et également l'auteur du livre « Aider à renaître au cœur des blessures de la vie » aux éditions Nouvelle Cité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On avait déjà eu l'occasion de parler de votre livre et là on s'intéresse plus particulièrement au burn-out. Alors en tant que médecin, d'abord j'ai envie de vous demander qu'est-ce que le burn-out en termes physiologiques déjà pour commencer ?
Le burn-out, en termes physiologiques, il se manifeste par un épuisement, justement, avec une perte d'intérêt pour les activités dans lesquelles habituellement on était plutôt heureux de pouvoir les vivre. Il y a aussi une sorte de, oui, presque de saturation, en fait. Alors, il faut distinguer pré-burnout et burn-out en tant que tel, mais en fait, plus on accumule de signes dans ce sens-là, plus eh bien, on va vers justement cet épuisement. Burn-out, ça veut dire en fait griller en anglais, et ça veut dire qu'on a finalement consommé toutes ses réserves au final. Et donc, ce n'est pas simplement qu'une dépression, c'est parce qu'on a tellement déployé d'énergie que non seulement on n'a plus la force de pouvoir faire son travail, mais aussi on n'en a plus le goût.
Alors là, je vous entends dire, pré-burnout, il y a quand même des signaux d'alerte auxquels il faut être vigilant.
Ben oui, entre autres, le désintérêt croissant pour ce que l'on fait, à avoir du mal à trouver un sens aussi. Il y a aussi, alors c'est là où il faut aussi un petit peu se présenter à un spécialiste, soit un psychologue, soit un médecin généraliste, parce qu'il peut y avoir parfois aussi des signes communs un petit peu avec la dépression, comme par exemple la tristesse, mais aussi le fait d'avoir des troubles du sommeil, ou même parfois aussi une manifestation aussi somatique, un mal de dos, ou alors l'estomac qui nous fait mal parce que il y a des acidités gastriques. Enfin voilà, il y a aussi plusieurs symptômes qu'il faut en même temps savoir présenter à un médecin, un psychologue. On ne se donne pas le diagnostic de burn-out comme ça.
Alors là, je vous entendais parler donc des différents symptômes physiologiques, mais vous avez également parlé de perte de sens. Alors, je m'adresse maintenant plutôt aux prêtres. Est-ce que dans le burn-out, il y a un lien aussi avec une dimension spirituelle, des blessures de l'âme ? Est-ce que c'est aussi une dimension à prendre en compte ?
C'est précisément ce que je partage justement dans ce livre « Aider à renaître au cœur des blessures de la vie ». En fait, à partir de ces blessures de l'âme dont on a parlé la dernière fois, nous pouvons rentrer dans des chemins de survie qui ne sont pas du coup de vie et qui peuvent conduire, et là c'est une dimension plus spirituelle, mais à une sorte d'écueil dans lequel nous pouvons retomber souvent et que les pères de l'Église appellent les péchés capitaux. Et on peut en repérer un ou deux qu'on a un petit peu plus spécifiques en fonction des blessures de l'âme qui ont été les nôtres. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Par exemple, celui pour lequel il y avait une attente de perfection, eh bien, il va se construire dans le fait d'être un peu perfectionniste. Et en soi, il pourrait penser, lui, que faire les choses bien, c'est ce qu'il faut faire. Simplement, en fait, à faire cela, il va devenir très exigeant, non seulement vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Et au final, ça peut aboutir à une forme de manque de compassion, de manque de douceur, même avec une certaine colère en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a un chemin vertueux qu'il pourra développer avec la grâce de Dieu, qui est celui de la plus de la douceur, de la compassion. Et donc cela aussi se fera pas simplement en identifiant ces chemins de survie et ce péché capital, mais aussi en le nommant et en particulier le sacrement de réconciliation, et en demandant à Dieu la grâce, l'aide pour pouvoir justement vivre ce changement. Ça se fait effectivement dans le temps et ça demande aussi une prise de conscience déjà. C'est une constante dans la Bible, nommer le péché, c'est commencer déjà à en être libéré.
Pour avancer sur un chemin de guérison après un burn-out, pour une personne croyante, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut qu'on puisse identifier les chemins de péché dans lesquels on retombe, qu'on en prenne conscience et qu'après on puisse aller consulter un prêtre pour pouvoir se confesser. Ça nous aide à avancer.
Mais effectivement, le sacrement de réconciliation est une des clés, parce que, comme le dit saint Thomas, Dieu nous donne pas seulement le pardon, mais aussi la grâce pour mieux faire. Voilà, l'aide pour mieux faire. Donc, c'est pour ça même qu'en soi, il est conseillé de le recevoir souvent, pas seulement pour les grandes fêtes, mais même, pourquoi pas, tous les mois, pour justement poursuivre le chemin. Après, c'est mieux, comme dit saint Augustin, mieux vaut trébucher sur la route que de courir en dehors du chemin. Donc, il faut accepter aussi cette condition de qui n'est pas très à la mode, mais de nous sommes pécheurs, il y a ce fond de péché qui est en nous, et nous avons besoin d'être sauvés par le Christ. C'est le cœur du message évangélique en soi. Il est venu nous pardonner et nous sauver. Et donc, de quoi ? Eh bien, justement, de ce fond de péché qui est en nous, qui a été assez bien nommé par Saint Jean-Paul II. Mais nous n'avons pas toujours conscience, justement, de comment il se déploie. Par exemple, vous voyez que le péché de capital d'avarice, il peut se manifester par le fait d'accumuler beaucoup de choses, pas simplement d'avoir un placard ou un frigo bien rempli ou un compte en banque bien rempli. C'est aussi accumuler beaucoup de connaissances, parfois beaucoup d'ouvrages, peut-être parfois aussi vouloir voir toutes les séries Netflix. Et à faire cela, à la fin, on s'isole de plus en plus et on s'épuise en fait, et on se coupe de la relation. Et en fait, le péché capital est un petit peu comme tentaculaire, et on n'a pas toujours conscience de la manière avec laquelle il se manifeste dans nos vies. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés aussi au chemin de sainteté, on pourrait dire presque opposé, avec la grâce de Dieu.
Est-ce que pour vous, le burn-out, c'est une maladie spirituelle ?
Alors, ça peut l'être. Après, il faut faire aussi attention. En ce sens où il peut y avoir parfois, il y a la personne, mais il y a aussi l'environnement professionnel, parfois personnel ou conjugal, dans lequel il se situe. Donc il ne s'agirait pas de mettre tout sur le dos de la personne qui fait un burn-out. Parfois, il y a aussi un contexte dans lequel il se trouve. Mais il est bon de voir effectivement comment parfois nous pouvons effectivement nous comporter comme des orphelins finalement, comme n'ayant pas besoin de Dieu, et du coup vivre d'une manière où finalement ce n'est pas le meilleur de nous-mêmes qui est révélé. Avec la grâce de Dieu, avec son aide, eh bien, ce qui est beau, c'est qu'on va déployer tous nos talents au service des autres, au service aussi de ce monde, au service de l'Église. Et du coup, en déployant nos talents, nous allons aussi nous épanouir. Voilà, c'est comme un mouvement qui est, on va dire, qui se tourne vers l'autre, avec un petit A, avec l'autre, avec un grand A, le tout autre, plutôt que d'avoir tendance à se recroqueviller sur soi-même et à de plus en plus s'isoler. Et du coup, un petit peu, on pourrait dire, c'est comme si ça sentait le renfermer, quoi. Et on donne pas, du coup, à ce moment-là, le meilleur de nous-mêmes. Et celui qui permet de vivre ce changement, cette transformation, de laisser derrière nous le vieil homme pour choisir l'homme nouveau, comme le dit saint Paul, eh bien, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même.
Donc, si je vous rejoins bien, le burn-out, c'est pas forcément une maladie uniquement spirituelle, mais éluder cette question-là, ce serait dommage, parce que ça donne peut-être aussi des petites clés de compréhension pour avancer.
Exactement, exactement. Et c'est en ce sens-là où il peut être intéressant de pouvoir un petit peu plus débusquer justement ce péché capital. Alors après, il y a des lieux où, par exemple, je m'investis aussi les retraites agapées Notre-Dame du Puy, où nous proposons pas seulement qu'un chemin de consolation, de libération intérieure, mais où justement, au cours d'une deuxième retraite, qu'on appelle retraite agapée 2, chemin de conversion, on identifie justement ce qui peut conduire à une forme d'épuisement personnel, parfois conjugal ou alors aussi communautaire ou pastoral aussi pour les prêtres ou les consacrés. Et donc, Ça peut être effectivement un regard extérieur qui nous aide à, parce que parfois soi-même, on a du mal à débusquer justement ce péché capital. Ça fait tellement longtemps qu'on vit dans ce chemin de survie, ça fait tellement longtemps qu'on s'est habitué presque à ce péché capital que on ne s'en rend même presque plus compte en fait. Et c'est en ce sens-là qu'avoir l'aide dans l'accompagnement spirituel de quelqu'un d'extérieur qui nous montre un petit peu les écueils dans lesquels nous pouvons retomber souvent, eh bien nous permet d'avancer avec une lumière nouvelle.
Par quoi il faut commencer justement quand on prend conscience de ce burn-out là, si on se rend compte qu'on a un épuisement intérieur, qu'on n'arrive plus à se lever peut-être pour faire ce qu'on a à faire, selon vous, quelle serait la première peut-être des choses à faire?
La première chose à faire, me semble-t-il, c'est de s'offrir des temps de repos. De repos pour soi, en particulier le repos sabbatique. Je pense qu'il est souvent trop souvent oublié. Voilà, si le septième jour il se reposa, hein, donc normalement le dimanche est fait non seulement pour louer, honorer, servir Dieu, mais aussi pour jouir de la beauté de la création, de justement se ressourcer dans la nature, pas rester devant un ordinateur ou devant les claviers ou des séries comme je disais tout à l'heure. C'est au contraire, il faut vraiment avoir un temps de ressourcement. Alors si on travaille le dimanche, et bien à ce moment-là c'est le lundi ou un autre jour. Voilà, vraiment ça, ce repos sabbatique est important. D'avoir aussi dans la semaine des moments de respiration où on fait des choses que nous aimons, des hobbies ou voilà, pour aussi avoir une certaine détente. Hein, voilà. Effectivement, ceux qui font un burn-out souvent sont, il y a pas d'espace de respiration pour la santé psychique, quoi, pour que l'esprit puisse s'aérer. Après. Pour ceux qui ont la foi, la prière aussi dans la journée peut être un temps de respiration. Hein, et il y a des études qui montrent justement que la prière, si on donne un quart d'heure, une demi-heure par jour, permet justement d'éviter cette saturation au niveau mental. Voilà. Donc nous avons cette chance d'avoir en particulier, avec dans l'esprit de la grâce carmélitaine, l'oraison, où c'est pas tant faire que de se laisser faire par Dieu, c'est pas tant aimer que de se laisser aimer par lui.
Et donc, vous pouvez revenir sur ce qu'est l'oraison. C'est vrai que la prière, on comprend parfois plus. L'oraison, on a l'impression que ça appartient plutôt au domaine des religieux. Est-ce que c'est le cas?
Non,
pas forcément.
Dès
justement.
Dès qu'on est baptisé, justement, tout baptisé peut vivre de cette vie d'oraison, justement. Qu'est-ce que c'est l'oraison? C'est un simple regard plein d'amour orienté vers Dieu. Et ce regard, il est ce regard de foi, plein d'amour orienté vers Dieu, en fait, fait qu'il va se simplifier de plus en plus et ça va nous mettre dans des états de recueillement de plus en plus profonds. Au début, c'est simplement des oraisons de recueillement. Parfois, après, ça va devenir peut-être des oraisons de quiétude, parfois des grâces d'union. Enfin, ça va être des états de recueillement qu'aucune autre méthode pourrait nous donner, parce que c'est Dieu qui nous met dans cet état-là de profond recueillement. Et du coup, ça fait du bien aussi non seulement à notre âme, mais aussi à notre corps. Notre corporité, on pourrait dire, se repose en Dieu, puisqu'il n'y a plus que ce simple regard orienté plein d'amour vers Dieu, ce simple regard de foi. Et donc,
c'est du silence aussi, l'oraison?
Et c'est d'abord cela, mais un silence plein de Dieu, rempli de Dieu. On est capable de Dieu à partir du moment où nous avons été baptisés. On a ces vertus théologales de foi, d'espérance et de charité qui nous font toucher Dieu. À chaque fois qu'on dit « je crois », dans ce simple regard plein d'amour orienté vers Dieu, nous touchons Dieu. C'est sûr que, comme dit saint Jean de la Croix, notre main, quand elle rentre dans l'eau, elle ressort mouillée. Et ce temps qui est donné à Dieu, alors il n'y a pas toujours des grâces d'oraison, des grâces de quiétude ou des grâces d'union, mais il peut y avoir parfois aussi on peut expérimenter Dieu lumière qui peut parfois nous éblouir notre intelligence, mais ce qui est sûr, c'est que ce temps que nous donnons à Dieu, il saura bien l'utiliser. Et c'est un temps, malgré tout, où justement notre intelligence se met sur pause, notre imagination aussi se met sur pause, et il n'y a plus que cette volonté qui fait que vraiment ce temps de prière, normalement, doit être un temps de ressourcement et qui nous fait du bien. Trop souvent, justement, il est peut-être laissé de côté dans une vie de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'activisme, hein, sachant que, bien, comme baptisés, nous sommes appelés justement à cette amitié avec Dieu et qui justement nous ressource dans tout notre être.
Alors Père François Buet, hein, je vous propose de poursuivre notre échange dans quelques minutes, juste après avoir écouté le groupe Imagine Dragon avec leur titre justement Burnout.
me peace. Does anyone out there want to hear me? It's just another downfall. Don't let it get the best of you. It's only up from the fall. Not everything inside of you.
La foi se raconte dans Témoins.
Vous venez d'écouter Burnout du groupe Imagine Dragon. Nous sommes avec le père François Buet, hein, prêtre du diocèse de Marseille et médecin à la clinique Sainte-Élisabeth, également l'auteur du livre « Aider à renaître au cœur des blessures de la vie » aux éditions Nouvelle Cité. Sur le burnout, père François, on a pu entendre parfois que le burnout était aussi la maladie du don et qu'elle pouvait aussi toucher, hein, la sphère chrétienne avec son besoin d'idéal, de dépassement de ses limites, de la valorisation du don de soi-même, l'esprit de sacrifice. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que c'est la maladie du don, et est-ce que ça touche aussi et même beaucoup finalement les milieux chrétiens?
Alors ça peut être ça, mais pas uniquement, pas exclusivement, mais c'est vrai qu'il y a certains profils qui, et dont la blessure de l'âme est plus je ne suis pas aimé pour ce que je suis mais ce que je fais, qui sont dans une attente, on pourrait dire, de reconnaissance. Et c'est une machine un peu à acheter de l'amour. Et pour pouvoir avoir cette reconnaissance, il faut qu'il soit toujours dans le faire. Et donc, d'une certaine manière, il pense qu'en faisant, il se donne. Et ça, effectivement, ça peut conduire à une forme d'épuisement, parce que c'est un puits sans fond. On a jamais assez. L'attente est toujours grande et plus que ce qu'on ne pourra donner. C'est pour ça que c'est des personnes qui sont des bons candidats à l'épuisement, parce qu'il faut qu'ils fassent, et dans ce faire, soit parce que faire les choses bien, soit bien consoler les autres, soit réussir. Il y a différentes manières, vous voyez, de faire, et pour ces personnes-là, de penser qu'elles se donnent. Mais au final, ça peut effectivement conduire à une forme d'épuisement, parce que elles veulent tellement répondre aux besoins des autres par ce faire qu'elles en oublient leurs propres besoins. Et puis, il peut y avoir aussi le risque, en particulier pour ceux qui sont dans la consolation, de se prendre pour le sauveur. Or, le seul sauveur, c'est le Christ. Et du coup, parfois, il y a même une exclusivité à vouloir prendre soin de la personne seule. Là, il y a encore plus de risques de surimplication émotive, d'ailleurs, mais aussi d'épuisement. Effectivement, tout cela peut conduire à une forme d'épuisement personnel, mais aussi professionnel, ou pourquoi pas pastoral. Donc le risque est réel pour ces profils-là. Après, il y en a d'autres qui sont blessés plus dans ce que j'appelle les blessures d'identité. Là, ce sera peut-être plus dans ce que je disais tout à l'heure, une forme de repli sur soi, et le repli sur soi qui coupe de la relation. Et là, c'est plus, on pourrait dire, une machine à se protéger des autres, mais qui peut du coup aussi conduire à une forme d'épuisement. Mais là, ce sera pas le don, c'est justement parce que j'aurais plutôt tendance à
être dans le contrôle.
Oui, ou à me recroqueviller sur moi-même, voilà. Et il y en a d'autres, c'est plus une machine à trouver sa place, on pourrait dire. C'est que Soit parce qu'on ne leur a pas laissé l'espace pour pouvoir donner leur avis, soit parce qu'ils étaient face à une autorité trop forte, soit parce qu'ils étaient face à une forme de contrainte. Ou, eh bien, du coup, ils lâchent, on pourrait dire, un peu la bride. Ils sont dans un trop qui fait que ils s'épuisent dans ce trop. Voilà, c'est un peu le monsieur plus. Il y a différentes manières d'être monsieur plus ou madame plus, d'en faire toujours trop. Alors, on pourrait dire que c'est une forme de don aussi, mais là, c'est une sorte de... c'est plus une sorte de... Encore une fois, d'un trop qui se manifeste soit dans la manière de vivre la relation aux autres, soit dans la manière aussi de ne pas considérer aussi la fatigue de son corps, et on en fait toujours plus, et donc voilà. Il peut y avoir ce don, cette maladie du don, mais ça peut, donc vous le voyez, venir aussi d'autres origines.
C'est pas uniquement, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est très complexe, et même sur le fait de reconnaître le burn-out comme une maladie, c'est pas, tout le monde n'est pas unanime sur ces questions.
On sent qu'effectivement, c'est plurifactoriel, et justement qu'il n'y a pas que cette dimension physique dont on parlait au début de l'émission, mais il y a comment se vit l'entourage aussi bien familial que professionnel, voire éventuellement communautaire. Et puis, il y a cette santé de l'âme aussi, justement.
Difficile à entretenir dans une société sécularisée.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que probablement aussi que ce burn-out est en pleine explosion aujourd'hui, parce que il est en perte de sens et en perte de quête de Dieu aussi. On a essayé de le montrer pendant cette émission, mais qui est celui qui peut aussi nous permettre de nous sortir de nos ornières dans lesquelles on retombe sans cesse, en fait. Et donc, il y a un moment, cette conversion, qui est presque une sorte de qui est pas tant, vous voyez, qui n'est pas, souvent on voit le mot conversion comme le mot de changer de religion, ou non, c'est pas ça, c'est je me tourne plus vers Dieu et vers les autres, et dans ce mouvement-là, qui est aussi ajusté, ni trop ni trop peu, je me permets de me retrouver aussi pleinement moi-même, et de déployer aussi tous les talents qui sont les miens. Donc c'est effectivement une question qui est complexe et qui est aussi une question sociétale.
Alors, en vous écoutant tout à l'heure, vous parliez de la relation à l'autre. Hein. Dans le burn-out, il y a aussi des difficultés dans ce rapport à l'autre. Est-ce qu'on doit changer notre regard à l'autre, repenser ce regard-là pour réussir à sortir d'un burn-out ?
Il faut voir l'autre avec un regard qui espère, comme aussi nous-mêmes, nous devons poser aussi un regard qui espère sur notre propre personne. Mais pourquoi ? Parce que Dieu espère en nous-mêmes et aussi espère en l'autre. Et du coup, c'est effectivement ne pas aussi réduire l'autre à ce qui pourrait parfois aussi nous fatiguer, nous épuiser, il faut le dire. Parce que dans la relation, justement, ce qui, à un moment, peut pousser en pointe, c'est précisément les chemins de survie de l'autre, et aussi c'est son péché capital, principal ou secondaire, et qui vient parfois même me rechercher là où je ne souhaiterais pas, qui vient gratter là où je ne souhaiterais surtout pas qu'il vienne gratter. Et alors c'est là où il faut que je sois dans une posture qui permette à l'autre de se sortir de ses écueils, de lui permettre aussi lui-même de déployer ce qu'il y a de meilleur en lui. Et aussi que moi, je n'ai pas peur aussi d'être ce que je suis et de déployer aussi les talents qui sont les miens. C'est, encore une fois, c'est un changement de regard aussi bien sur soi-même que sur les autres. Et donc, ce que nous appelons cette révolution copernicienne, qui est vraiment aussi un bouleversement aussi dans notre manière de nous positionner, encore une fois, ne pourra pas se faire à la force du poignet, mais uniquement avec la grâce et l'aide de Dieu. C'est en ce sens-là où on ne peut pas se sauver tout seul de ce péché. C'est précisément pour ça que le Christ est venu. Il est venu nous sauver de quoi ? Du péché, de sa triste conséquence, de la mort. Et donc, du coup, ça nous donne aussi un rapport à Dieu très concret. C'est pas pour rien, par exemple, que les moines et les moniales chantent plusieurs fois par jour « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ». C'est justement parce que quand on a pris conscience de ce péché capital, principal et secondaire, comment il peut avoir des effets dans notre vie, dans notre relation à nous-mêmes, aux autres, eh bien, ça nous fait appeler Dieu à chaque instant. Dieu, viens à mon aide, j'ai besoin de toi pour ne pas tomber dans cet écueil et pour avec toi choisir le chemin vertueux, le chemin de sainteté à laquelle tu m'appelles pour déployer, comme je disais tout à l'heure, plutôt que d'être dans la colère, le manque de compassion, déployer la compassion, la douceur, plutôt que d'être dans le... l'avarice, être plutôt dans le partage, plutôt que d'être dans le trop, l'excès, je serai dans la juste mesure, plutôt que d'être dans une forme de paresse, avec la grâce de Dieu, je déploierai le choix juste, plutôt que d'être dans la méfiance de l'autre, je serai dans la confiance, plutôt que d'être dans la jalousie, l'envie, je serai dans l'équanimité, dans une sainte indifférence, plutôt que d'être dans la réussite, le manque d'authenticité, je serai dans l'authenticité. Plutôt que d'être dans l'orgueil, je serai dans l'humilité. Plutôt que d'être dans la gourmandise, je serai dans une sobriété. Voyez, autant de manières, on pourrait dire, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'avec la grâce de Dieu, pour prendre l'exemple, par exemple, de ceux qui sont hésitants, qui resteraient dans une certaine paresse, avec les dons du Saint-Esprit aussi, il donne... le don de conseil aux hésitants. Ceux qui avaient plutôt tendance à ne pas bouger, à ne rien faire, avec la grâce de Dieu, deviennent des bons conseillers. Et donc, c'est ça aussi qui est beau, c'est que là où le péché a pu abonder, la grâce de Dieu a surabondé et permet de déployer ce qu'il y a pourtant même dans ce lieu de péché, ce qu'il y a de plus beau en nous. Et du coup, c'est beau parce qu'on ne va pas se l'approprier, parce que ça ne peut venir que de Dieu. Et dans tout ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, il y a aussi cette belle petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je fais pas les choses à la force du poignet, mais je me tourne sans cesse vers Dieu pour demander sa grâce, son aide, et sortir justement de ce lieu de péché, de ces écueils, dans ces ornières dans lesquelles je retombe. Après, ce péché capital... il va nous quitter qu'un quart d'heure après notre mort. Il faut aussi que nous acceptions de vivre avec, d'accepter aussi notre parcours. On est riche aussi de nos blessures. Il faut tout simplement ne pas vivre comme des orphelins qui veulent s'auto-satisfaire et penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Non, justement, que ça soit un appel régulier, pas simplement toutes les heures, mais même toutes les minutes. Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être sauvé jusque dans ce lieu de péché qui est le mien pour que je puisse être vraiment enfant de Dieu et déployer ce qu'il y a de plus beau en moi.
Merci beaucoup, Père François Buet, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Marseille et également médecin à la clinique Sainte-Élisabeth, l'auteur du livre « Aider à renaître au cœur des blessures de la vie » aux éditions Nouvelle Cité. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur RCF.